Chapitre 2e. Le lecteur doit voir avec quelle rapidité j'avançais au bord du précipice. J'avais bien un sentiment confus qui m'avertissait de ce que j'allais faire, mais je ne pouvais m'arrêter. Est-il possible, me disais-je, que M. Falkland, accablé comme il l'est de l'idée de s'être vu injustement déshonoré à la face de la terre, veuille supporter plus longtemps la présence d'un indiscret et important jeune homme qui est sans cesse à lui ramener son déshonneur sous les yeux, et qui semble le plus acharné à entretenir une odieuse imputation. À la vérité, je sentais que M. Falkland ne se déciderait pas facilement à me renvoyer, par la même raison qui le faisait s'abstenir de beaucoup d'autres actions qui auraient pu déceler en lui une sensibilité trop chatouilleuse et trop timorée. Mais cette réflexion était fort peu consolante. Qu'il alla nourrir contre moi dans son cœur une haine toujours croissante, et qu'il se crut forcé de me retenir auprès de lui comme une croix dont on ne peut se délivrer, c'était une idée qui ne me promettait rien de bon pour ma tranquillité à venir. Ce fut quelque temps après ceci qu'en vidant un bureau, j'aperçus un papier qui avait glissé derrière un des tiroirs et auquel on n'avait pas pris garde. Dans un autre temps, ma curiosité aurait peut-être cédé au principe de la délicatesse et j'aurais rendu le papier sans l'ouvrir à mon maître, à qui il appartenait. Mais tout ce qui avait précédé avait trop vivement excité en moi le désir d'acquérir des éclaircissements pour me permettre de négliger l'occasion qui s'offrait. Le papier se trouva être une lettre de Hawkins père, et il paraissait, d'après son contenu, qu'elle avait été écrite à l'époque où il avait commencé à songer à se dérober par la fuite aux persécutions de M. Tyrrell. Elle était ainsi conçue. « Mon honorable monsieur, j'étais pendant quelque temps dans l'espérance que votre honneur serait de retour d'un jour à l'autre dans nos cantons. Le père Warnes et sa femme, qui sont restés pour garder votre maison, m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'informer au juste quand cela serait, ni me dire en quel endroit de l'Angleterre vous étiez pour le moment. Quant à ce qui me regarde, le malheur m'en veut à tel point qu'il faut que je prenne un parti, c'est une chose bien sûre, et cela tout de suite. Notre Seigneur, qui m'a d'abord traité avec assez de bonté, il faut que j'en convienne, quoique j'ai bien peur qu'il l'ait fait en partie pour faire dépit à M. Underwood, s'est buté depuis à me détruire tout à fait. Au moins, monsieur, je ne me suis pas laissé écraser comme un ver. Je me suis défendu de mon mieux, car après tout, Dieu merci, un homme en vaut un autre, comme on dit, mais il était trop fort pour moi. Peut-être que si j'avais poussé jusqu'à la ville du marché en m'adressant à Munns, votre avocat, il aurait pu me donner les moyens d'écrire à votre seigneurie. Mais après avoir espéré et attendu en vain, il m'est venu d'autres idées là-dessus. Je n'ai pas cherché, monsieur, à vous aller ennuyer de mes affaires, car je n'aime pas à importuner personne. Je gardais cela pour ma dernière ressource. Or donc, à présent, qu'elle m'a aussi manqué, je suis pour ainsi dire honteux d'y avoir songé. Est-ce que je n'ai pas, me suis-je dit, des bras et des jambes aussi bien qu'un autre? Me voilà chassé de ma maison, sans feu ni lieu. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Je ne suis pas un chou pour mourir, parce qu'on m'a mis hors de ma terre. Je suis sans un sou, cela est vrai. Et combien y en a-t-il, par centaines et par milliers, qui vivent au jour le jour pendant toute leur vie? Et puis, me suis-je dit, j'en demande pardon à votre seigneurie. Si nous autres, petites gens, avions seulement l'esprit de nous suffire à nous-mêmes, les autres ne seraient pas d'insipides et d'orgueilleux fainéants comme ils sont. Ils se trouveraient bien embarrassés d'eux-mêmes. Mais il y a autre chose qui m'a décidé plus que tout le reste. Je ne sais comment vous dire cela, monsieur. Mon pauvre enfant, mon Léonard, tout le bonheur de ma vie, est depuis 3 semaines dans la prison du comté. Cela est de toute vérité, monsieur. C'est monsieur Tyrrell qui l'a fait mettre là. À présent, monsieur, je ne repose pas 2 fois ma tête sur l'oreiller dans ma pauvre chaumière que le cœur ne me saigne de la situation de mon Léonard. Ce n'est pas tant pour la souffrance, ce n'est pas là ce qui m'inquiète. Je ne m'attendais pas qu'il n'eût pas de peine à endurer dans sa vie. Je ne suis pas assez sot pour le croire. Mais qui sait ce qui peut lui arriver dans une prison? J'ai été 3 fois pour le voir, et il y a dans le même coin de prison que lui un homme qui a une si mauvaise figure. Je ne sais pas comment sont les autres. Certainement, Léonard est un des braves garçons qu'il y ait. J'espère bien qu'il n'écoutera pas de pareils gens. Mais qu'il arrive ce qu'il voudra, je suis bien résolu à ne le pas laisser dans cette compagnie-là encore 12 heures de plus. Je ne suis peut-être qu'un obstiné et un vieux fou, mais je l'ai mis dans ma tête et cela sera. Ne me demandez pas ce que c'est. S'il me fallait écrire à votre seigneurie et attendre la réponse, cela prendrait 8 ou 10 jours de plus. Il n'y faut pas penser. Monsieur Tyrell est fort opiniâtre, et vous, n'en déplaise à votre seigneurie, vous êtes tant soit peu vif. Je ne veux pas que personne ait du bruit par rapport à moi. Il n'y a déjà eu que trop de mal de fait, et je ne veux autre chose que me tirer de la presse. Ainsi j'écris ceci à votre seigneurie, seulement pour me décharger le cœur. Je me sens tout aussi obligé à vous respecter et à vous aimer comme si vous aviez fait pour moi tout ce que vous n'auriez pas manqué de faire, j'en suis sûr, si la chance eût tourné différemment. Il y a beaucoup à parier que vous n'entendrez plus parler de moi davantage. Si cela est, tenez votre digne cœur en repos. Je me connais trop bien pour être jamais tenté de rien faire qui soit réellement mal. Il faut maintenant que j'aille chercher ma fortune dans le monde. J'ai été assez maltraité, Dieu le sait, mais je n'en garde pas de rancune. Mon cœur est en paix avec tous et je pardonne à qui m'a fait mal. Je crois bien que ce pauvre Léonard et moi, nous n'aurons pas mal de peine à endurer au milieu d'étrangers, étant obligés de nous cacher comme des voleurs de grand chemin. Mais je défie la malice du sort, quelle qu'elle soit, de nous pousser à rien de vicieux. C'est là la consolation qui nous soutiendra toujours contre les traverses et les croix de ce malheureux monde. Que Dieu bénisse votre seigneurie. Ce sont là les vœux de votre humble serviteur à vous obéir. Benjamin Hawkins. Je lus cette lettre avec une extrême attention, et elle me fit naître bien des réflexions. Suivant moi, elle portait la vive empreinte d'une âme simple et droite. C'était une réflexion bien triste, me disais-je à moi-même, mais c'est ainsi que l'homme est fait. À juger sur les apparences, on aurait dit « Voilà un brave homme capable de supporter, avec un cœur incorruptible, la bonne et la mauvaise fortune. Et pourtant, voyez où tout cela aboutit. Ce même homme a pu devenir ensuite un meurtrier et finir ses jours au gibet. Oh, pauvreté! On peut dire que ton influence est toute puissante. Tu nous brises l'âme par le désespoir. Tu détruis en nous nos principes les plus chers et les plus profondément enracinés. Tu nous remplis de vengeance et de méchanceté, et tu nous rends capables des actions les plus atroces. Puissé-je ne jamais sentir ta funeste puissance dans toute son étendue ? Après avoir contenté ma curiosité, j'eus soin de déposer cette lettre, de manière à ce qu'elle pût être trouvée par M. Falkland. En même temps que par une suite du sentiment qui me dominait alors, je voulais qu'en frappant son attention, ce papier lui fît naître l'idée qu'il avait pu passer par mes mains. Je vis M. Falkland le lendemain matin, et quand la conversation, que je n'étais déjà plus embarrassé d'entamer, fut une fois en train, je m'arrangeais pour l'amener insensiblement au point où je la voulais. Après beaucoup de questions, de répliques et de préliminaires, je continuai ainsi. Avec tout cela, monsieur, quand je réfléchis à la nature humaine, je ne puis m'empêcher de voir avec peine qu'il n'y a pas de fond à faire sur sa constance, et qu'au moins, parmi les gens sans éducation et sans culture, des commencements qui promettent le plus en apparence peuvent finir par la honte et l'infamie. Ainsi, vous pensez donc qu'un esprit orné par les lettres et cultivé par l'étude est le seul garant de la solidité de nos principes ? Mais pourquoi supposeriez-vous, monsieur, que le talent et l'instruction ne servent pas souvent plutôt aux gens à cacher leurs crimes qu'à les empêcher d'en commettre ? Nous trouvons là-dessus d'étranges choses dans l'histoire. Williams, dit M. Falkland, un peu troublé, vous avez un bien singulier penchant à la censure et à la misanthropie. J'espère que non. Assurément, je n'aime pas moins à voir le revers du tableau et à considérer combien il y a de gens qui ont été calomniés, et même dans un temps ou dans un autre, déchirés et presque mis en pièces par leurs compatriotes, et qui pourtant se sont trouvés faits pour être chéris et vénérés, quand on a pu les bien juger. En vérité, reprit en soupirant M. Falkland, quand je pense à tout cela, je ne m'étonne pas de l'exclamation de Brutus mourant. Ô vertu, je t'ai cherché comme une réalité, et je trouve que tu n'es qu'un vain nom. Je ne suis que trop porté à penser comme lui. À coup sûr, monsieur, l'innocence et le crime sont souvent, dans cette vie, confondus l'un avec l'autre.
Je me rappelle une histoire bien intéressante d'un pauvre homme du temps d'Élisabeth,
qui aurait été infailliblement pendu pour meurtre, par la force des circonstances qui déposaient contre lui, si le véritable auteur n'eût pas été de lui-même se présenter au jury et empêcher la condamnation.
En disant ceci, je touchai la corde sensible qui réveillait toutes ses douleurs. Il vint sur moi d'un air furieux, comme déterminé à m'arracher de force le fond de ma pensée. Une sorte d'avertissement soudain parut lui faire changer d'idée. Il retourna en arrière avec un tremblement convulsif en s'écriant
« Maudit soit mille fois le monde et les lois qui le gouvernent. L'honneur, la vertu, la justice, toute jonglerie de fripons. J'abîmerais tout à l'heure l'univers entier dans le néant, si j'en avais la force.
« Ah, monsieur, répliquai-je, les choses ne sont pas si mal que vous le supposez. Le monde a été fait pour que les sages le conduisissent à leur gré. »
Ces affaires ne peuvent être en de meilleures mains que dans celles des vrais héros et, comme au bout du compte, ce sont là les amis et les protecteurs naturels de la société, la multitude n'a rien à faire qu'à les contempler, se régler sur eux et admirer. »
M. Falkland fit un grand effort pour reprendre sa tranquillité. « Williams, vous me donnez une excellente leçon. Vous avez des idées justes des choses et j'espère très bien de vous. Je veux prendre sur moi. Je me dompterai. J'oublierai le passé et ferai mieux pour l'avenir. L'avenir, l'avenir est toujours à nous. Je suis affligé, monsieur, de vous avoir fait de la peine. Je ne sais si je dois dire tout ce que je pense, mais j'ai opinion qu'à la fin tout s'éclaircira, que justice sera faite et que la vérité se fera connaître, malgré toutes les fausses couleurs dont on aura voulu la couvrir. »
L'idée que je suscitais dans l'esprit de M. Falkland ne lui fut pas agréable. Il essuya une rechute d'un moment.
« Justice, reprit-il entre ses dents, je ne sais pas ce que c'est que justice. Mon mal est au-delà des remèdes ordinaires. Peut-être est-il sans remède. Tout ce que je sais, c'est que je suis le plus malheureux des hommes. J'ai commencé ma vie avec les intentions les plus pures, avec le plus ardent amour de l'humanité, et me voici malheureux. Malheureux au-delà de tout ce qu'on peut exprimer, de tout ce qu'il est possible de supporter. »
Après ces paroles, il se recueillit tout à coup en lui-même et reprit sa morgue et sa dignité ordinaire.
« Comment cette conversation est-elle venue ? » s'écria-t-il. « Qui vous a donné le droit de vous faire mon confident ? » ?»«
Bah, artificieux serpent que vous êtes !
Apprenez à vous comporter avec plus de respect.
Suis-je fait pour que mes passions soient soulevées et apaisées au gré d'un insolent domestique ? M'avez-vous pris pour un instrument sur lequel vous pouviez vous jouer à plaisir, pour tâcher d'en exprimer tous les secrets de mon âme ?
Sortez !
Et craignez que je ne vous fasse payer cher cette folle témérité. » Ces paroles étaient accompagnées d'une expression de figure si énergique et si prononcée qu'elle ne souffrait pas de réplique. Je restai muet. Je me sentis comme privé de tout mouvement actif et je ne pus sortir que machinalement de la chambre.